podcast RFHT.
Bonjour à tous. Nous allons donc vous parler aujourd'hui du PTT à révélation pédiatrique. Alors, quand je dis nous, c'est d'une part Bérangère Joly, qui est au laboratoire d'hémostase au CHU Lariboisière et qui est également responsable du laboratoire CNRMAT, en particulier pour tout ce qui est activité à Darmstadt. Et moi, donc Thierry Leblanc, qui suis hématopédiatre à Robert Debré et responsable d'un site constitutionnel pour le CRMR, cytopénie auto-immune de l'enfance. Alors, le PTT à révélation pédiatrique, c'est une forme rare de syndrome de MAT, et il faut savoir que chez l'enfant, il en existe plusieurs types, avec par ordre de fréquence le CHU typique, le CHU atypique et le PTT, qui est donc une rareté parmi une maladie rare. Alors, Bérangère, tu es biologiste référente pour le diagnostic des PTT, et tu as également les données du registre français pour les cas pédiatriques. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle est la fréquence des PTT pédiatriques et les principales données épidémiologiques ?
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Donc, en effet, le PTT à révélation pédiatrique est une entité rare au sein d'une maladie rare. Dans le registre français du Centre de référence des microangiopathies thrombotiques, depuis le 1er janvier 2000 à aujourd'hui, nous avons recensé 103 cas pédiatriques de PTT et la répartition des formes de PTT est différente de celle observée chez l'adulte, puisque chez l'enfant, nous observons environ un tiers de formes congénitales de PTT d'apparition précoce, généralement on y reviendra, et environ deux tiers de formes acquises de PTT d'apparition un peu plus tardive. La forme congénitale de PTT qui est définie par un déficit sévère en Adams-13 lié à la présence de mutations bialléliques du gène Adams-13, et en France la prévalence de cette forme de PTT est estimée à 0,86 cas par million d'enfants. Et actuellement dans le registre français nous avons 39 patients qui ont une forme congénitale de PTT révélée dans l'enfance. Il faut savoir que l'âge au diagnostic est d'environ un an et le premier épisode de PTT authentifié survient en période néonatale ou durant la petite enfance. Le sexe ratio est de l'ordre d'une fille pour un garçon. Alors que dans la forme acquise du PTT, donc celle-ci est principalement auto-immune et associée à la présence d'auto-anticorps qui sont dirigés contre la protéase Adams-13, et la prévalence du PTT acquis chez l'enfant est estimée à 1 cas par million d'enfants avec une incidence annuelle de 0,20 nouveaux cas par million d'enfants. En France, on compte 63 patients qui ont une forme acquise de PTT qui a été révélée dans l'enfance et qui sont actuellement suivis. L'âge médian au diagnostic est de 14 ans et le sexe ratio de cette forme est de l'ordre de deux filles pour un garçon.
Et donc, les circonstances de découverte des formes constitutionnelles en pratique ?
Alors, en pratique, les enfants qui sont atteints de PTT congénital présentent dans la majorité des cas des symptômes de MAT en période néonatale précoce et certains ont nécessité une exsanguinotransfusion. Ça concernait un peu plus de la moitié d'entre eux. Le premier épisode de PTT authentifié survient donc en période néonatale ou post-néonatale et durant la petite enfance, le plus souvent associé à un facteur déclenchant comme par exemple une infection ou une vaccination. Et certains enfants présentent des ischémies d'organes qui sont chroniques et des séquelles à plus ou moins long terme ont été rapportées chez à peu près la moitié des patients. Thierry, pour les formes acquises, quels sont les modes de présentation que doit connaître l'hématopédiatre ?
Alors, en pratique, le diagnostic de PTT doit être suspecté devant tout syndrome de MAT, donc associant une anémie hémolytique avec présence de schizocytophrotie, accompagnée d'une thrombopénie qui est souvent sévère. Et ceci peut être plus ou moins associé à des signes ischémiques d'organes de sévérité variable qui sont avant tout digestifs, rénaux, en sachant que l'atteinte est plutôt moins sévère ici que dans les CHU, cardiaque ou neurologique. On peut également avoir une fièvre à la phase aiguë. Donc dans les formes acquises, ce tableau survient typiquement chez une fille, comme on l'a dit, avec un sexe ratio de 2 pour 1, et plutôt à l'adolescence, avec un âge médian à 14 ans, en sachant que les formes secondaires, qui peuvent être associées à une infection, une maladie auto-immune, une néoplasie ou une greffe, sont plutôt plus précoces, avec un âge médian à 8 ans, que les formes idiopathiques.
Et le diagnostic clinique est-il difficile et existe-t-il des pièges diagnostiques ?
Alors oui, le diagnostic est souvent difficile et pour au moins trois raisons. D'une part, comme on l'a dit, c'est une maladie spécialement rare en pédiatrie et donc il ne va pas être facilement évoqué en première analyse, en particulier s'il n'y a pas de contexte, donc plutôt pour les formes idiopathiques. D'autre part, là ici plutôt pour les formes secondaires, car le PTT peut s'intégrer dans un contexte clinique qui est déjà riche et que les manifestations du PTT ne sont pas forcément d'allure très spécifique au départ. Et puis enfin, car le tableau de PTT peut être initialement dissocié et non évocateur. Je pense en particulier à un enfant qui se présente avec parmi une thrombopénie isolée en première analyse. On va partir beaucoup plus rapidement sur un diagnostic de PTI. En pratique, on estime que dans au moins 30% des cas, le premier diagnostic porté n'est pas celui de PTT, mais soit de CHU classique ou atypique, de cytopénie auto-immune, voire d'hémopathie maligne. Le retard au diagnostic est pourtant délétère. Tout retard de mise en place du traitement spécifique augmente le risque de décès ou de séquelles liées aux atteintes d'organes, d'où l'intérêt pour le clinicien d'être systématique dans la prescription d'examens de première et de deuxième attention qui permettront le diagnostic. Donc, je me retourne vers toi, Bérangère. Peux-tu nous préciser en quoi le laboratoire peut nous aider pour faire le diagnostic de PTT?
Oui, tout à fait. Le rôle du biologiste est important dans la prise en charge du PTT. Le diagnostic doit être suspecté, comme tu l'as dit, devant tout syndrome de Mat. Et comme chez l'adulte, à la phase aiguë du PTT, les enfants présentent une anémie hémolytique avec un taux d'hémoglobine assez bas, autour de 6 à 7 grammes par décilitre, des réticulocytes élevés, des signes d'hémolyse avec une bilirubine et des LDH élevés, associés à une thrombopénie généralement sévère, hein, autour de 10 à 15 gigas par litre. On a des schizocytes qui sont généralement présents sur le frottis sanguin au-delà de 1%, mais en l'absence de schizocytes, il est nécessaire de répéter régulièrement leurs recherches. Un deuxième point important, c'est la mesure de l'activité d'Adam Stress qui est généralement réalisée rétrospectivement et qui permet de confirmer ou bien d'infirmer le diagnostic de PTT. Le prélèvement doit être réalisé avant toute plasmathérapie puisque le plasma apporte de manière exogène l'Adam Stress. Et dans le PTT, il existe un déficit fonctionnel sévère dans cette protéase qui est défini par une activité d'Adam Stress strictement inférieure à 10%. Dans un second temps, lorsque l'activité est donc inférieure à 10%, quand on a posé le diagnostic de PTT, on va rechercher et titrer les IgG anti-Adam Stress afin d'orienter le diagnostic vers une forme acquise auto-immune de la maladie lorsque ces IgG sont positives. Par contre, si les IgG anti-Adam Stress sont négatives, on a besoin de continuer de suivre l'activité d'Adam Stress en rémission, puisque si elle se normalise, on pourra poser a posteriori le diagnostic d'une forme acquise de PTT. Par contre, si elle est toujours indétectable, on va réaliser l'analyse du gène Adam Stress pour documenter une éventuelle forme congénitale de la maladie. Donc la question suivante est pour toi, Thierry. Comment traite-t-on le PTT chez l'enfant?
Alors, les cibles thérapeutiques, c'est l'Adam Stress, bien sûr. Il faut restaurer une activité minimale d'au moins 20%, et dans les formes acquises, les auto-anticorps dont il faut réduire au maximum le taux. Donc, les traitements classiques sont les mêmes que chez l'enfant que chez l'adulte, et associent principalement une plasmathérapie reposant, selon les cas, soit sur les échanges plasmatiques, soit sur des perfusions de plasma frais-congelé, ce qui va permettre un apport exogène d'Adam Stress. Et puis, dans les formes acquises, a priori, un traitement immunosuppresseur qui repose sur les corticoïdes et maintenant également sur le rituximab. Donc, dans le PTT congénital, le traitement de la phase aiguë repose sur des apports de plasma, avec des perfusions de l'ordre de 10 à 15 mg kilo jusqu'à la rémission. Et on peut ensuite enchaîner sur un traitement prophylactique avec des perfusions de plasma qui sont faites toutes les 2 à 4 semaines en fonction de la tolérance et de la chronicité de la maladie. Dans la forme auto-immune du PTT, on fait le plus souvent une plasmathérapie, au moins chaque fois que ceci est possible. Ça va permettre à la fois l'apport d'Adam Stress et l'élimination des auto-anticorps. Et puis dès qu'on a une évidence d'anticorps anti-Adam Stress, on associe un traitement immunomodulateur par corticoïdes et rituximab. Pour ce dernier, il faut savoir que s'il est associé à des échanges, il faut bien sûr beaucoup plus serrer les perfusions que dans les traitements classiques d'estopénie auto-immune, par exemple. À ce traitement, qui est le standard of care actuel, on associe en général une épargnothérapie par HBPM dès que les plaquettes sont supérieures à 50 gigas par litre. Alors, dans l'arsenal thérapeutique, on a maintenant deux nouvelles possibilités. C'est d'une part le caplacizumab et d'autre part la forme recombinante d'adamstrèz, en sachant que l'expérience pédiatrique est encore très limitée et que des essais cliniques sont en cours. La forme recombinante, bien sûr, sera particulièrement intéressante dans les formes constitutionnelles, en particulier si on démontre l'absence de survenue d'auto-anticorps dans le suivi. Mais on a encore un stade très précoce du développement. Je crois qu'il y a une seule observation publiée à ce jour dans le New England qui a montré l'efficacité de cette approche. Le caplacizumab, lui, a montré chez l'adulte qu'il diminuait le temps de la récupération plaquettaire, la durée des échanges et la durée d'hospitalisation. En France, on a une AMM à partir de 12 ans, ce qui correspond à beaucoup de cas en pratique, ce qu'on voit en pédiatrie. Mais à ce jour, la revue de la littérature retrouve simplement une douzaine de cas publiés, dont certains enfants traités en France. De fait, dans le registre français, on a notion de 8 enfants qui ont reçu du caplacizumab, 7 à la phase aiguë, 1 lors d'une rechute. Traitement bien sûr associé à des échanges et à une immunomodulation, et ces enfants ont une évolution favorable. Alors, ces nouvelles approches thérapeutiques posent également des nouveaux défis pour le clinicien. Et Bérangère, là aussi, tu peux nous aider au laboratoire pour le suivi de ces traitements?
Oui, tout à fait. À la phase aiguë du PTT, on suit d'abord la cinétique de normalisation des plaquettes, des paramètres d'hémolyse et les éventuelles atteintes d'organes. Dans la forme congénitale de PTT, chez les patients qui reçoivent une prophylaxie régulière par plasmathérapie, et pour tous les patients que, comme tu l'as dit, qui sont inclus dans les essais pour l'adamstrèz recombinante, nous suivons régulièrement les IgG anti-adamstrèz afin de détecter une éventuelle alloimmunisation dirigée contre la protéase, mais à ce jour, les données sont rassurantes et aucun patient n'a développé d'allo-anticorps anti-adamstrèz. Pour les formes acquises auto-immunes de PTT, si le caplacizumab, comme tu l'as expliqué, était prescrit pour protéger les enfants des exacerbations et des rechutes précoces et toujours en association aux échanges et aux immunomodulateurs, il est recommandé de poursuivre le caplacizumab jusqu'à ce que l'activité d'adamstrèz atteigne un seuil protecteur, ce qui traduit donc l'efficacité des traitements. Et l'activité d'adamstrèz est donc mesurée une fois par semaine chez ces enfants jusqu'à l'obtention du seuil protecteur. Donc le biologiste a également un rôle important dans le suivi aussi bien de la phase aiguë que en rémission. Et justement, Thierry, quel doit être le suivi de ces patients à court et long terme?
Alors, ces enfants doivent clairement être suivis au long cours, hein. Pour les formes constitutionnelles, beaucoup de ces enfants vont recevoir des perfusions séquentielles, préventives, perfusions de plasma. Et comme tu l'as dit, il faut se méfier d'une potentielle alloimmunisation. Pour les formes acquises, le suivi a un double intérêt. D'une part, dépister une rechute. Et d'autre part, dépister une évolution vers une maladie auto-immune plus large, comme un lupus. En général, on monitore de façon très régulière l'activité d'adamstrèz. Ceci permet éventuellement de détecter une rechute biologique avant tout signe clinique, et on peut auquel cas discuter l'utilisation de rituximab en préemptif. Et enfin, globalement, que ce soit une forme construite ou acquise, la transition entre la pédiatrie et la médecine d'adulte est un enjeu crucial et devrait être anticipée et accompagnée pour que tout ceci se passe le mieux possible pour l'enfant.
Merci beaucoup Thierry pour toutes ces informations. Donc, en conclusion, le PTT à révélation pédiatrique est une entité rare au sein d'une maladie rare. L'évolution de la prise en charge, aussi bien diagnostique que thérapeutique, a considérablement évolué ces dernières années, en France et dans le monde, évidemment, avec de nouveaux médicaments. Un suivi médical régulier, un monitoring régulier de l'activité d'adamstrèz, un bilan d'auto-immunité et évidemment un accompagnement dans la transition enfant-adulte sont vraiment très importants pour ces petits patients. Et merci à tous d'avoir suivi ce podcast consacré au PTT à révélation pédiatrique.
Podcast RFHT.